Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour redécouvrir la Bible d'une façon inhabituelle, mais très intéressante. J'ose regarder les pages les plus insolites de la Bible et je crois qu'on y trouve des choses parfois très intéressantes. Bon, vous savez que Jésus utilisait souvent les paraboles pour s'exprimer, souvent pour expliquer quelque chose et raconter une grande histoire. Et plusieurs de ces paraboles-là sont très intéressantes parce que, bon, elles favorisent la réflexion et tout ça. Mais il y a un passage dans l'Évangile selon Marc, auquel on va s'attarder aujourd'hui, où Jésus semble ne pas vouloir que ses auditeurs comprennent ce qu'il raconte en paraboles. Je vais donc vous présenter la parabole qu'il ne faut pas comprendre. Bonne émission! Avant d'entrer dans notre parabole, je vous transmets la présentation que Jacques Gauthier a faite du livre duquel sont tirées nos émissions. Cette présentation a été faite à l'émission de Radio-Canada, Le Jour du Seigneur. Je vous la lis. Il y a des récits insolites dans la Bible qui piquent notre curiosité. Pour nous aider à poser un regard nouveau sur ces récits, je vous propose le livre de Sébastien Daune. Le titre « Mais d'où vient la femme de Caïn ?» Sébastien Daune anime des émissions à Radio-Ville-Marie. Il est animateur de pastoral au Collège Saint-Jean-Vianney. L'auteur aime la Bible, ça paraît lorsqu'on lit son livre, et il nous aide à poser un regard neuf sur ses récits insolites. Une trentaine de récits coédités par Mediapol et Novalis. Merci beaucoup à Jacques Gauthier pour cette présentation qu'il a faite à l'émission de télévision Le Jour du Seigneur. La prochaine fois, je vais lire vos commentaires ou questions en ondes, alors n'hésitez pas à nous communiquer ces questions, ces commentaires. Notre adresse, c'est auditoire@radiovm.com. Une petite salutation rapide aux auditeurs protestants. Moi-même, je suis catholique, mais j'aime beaucoup savoir qu'il y a des chrétiens d'autres confessions qui nous écoutent et qui lisent mes propos. Cette semaine, j'ai reçu des commentaires de chrétiens évangéliques et presbytériens, alors je voulais en particulier les saluer et les remercier de leur encouragement. On poursuit avec un peu de musique, puis on s'attarde à la parabole qu'il ne faut pas comprendre. Le dictionnaire Larousse écrit que « parler en parabole » est une expression qui signifie « parler d'une manière voilée ou obscure ». On va voir d'où vient cette conception d'une parole qui est quelque chose de voilé, d'obscur, de compliqué à comprendre, parce qu'entre autres, il y en a une où ça semble, Jésus semble même vouloir nous dire de pas comprendre. Alors, on va lire ça, mais on va essayer de s'en parler un petit peu après. Donc, c'est un court discours de Jésus à ses proches. C'est pas une parabole comme telle, mais il va parler de ses paraboles en général. Et il semble indiquer qu'il parle en parabole pour empêcher les autres de comprendre. On retrouve cet extrait entre la parabole du semeur, au chapitre 4 de l'Évangile de Marc, et son explication. Donc, entre la parabole du semeur et l'explication, voici ce que Jésus a à nous dire.
« Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme pour que, tout en regardant, ils ne voient pas, et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? »
Avez-vous compris ce court extrait? Si on suit à ce passage, les paraboles semblent utilisées par Jésus pour que les non-initiés, ceux qui sont de l'extérieur, comprennent pas ses propos et ultimement qu'ils ne se convertissent pas à Dieu. Ça semble assez étonnant, en tout cas moi ça m'étonne, parce que d'habitude Jésus est présenté comme celui qui va prêcher pour que les gens se tournent vers Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas que tout le monde comprenne son message? Bon, pour commencer, regardons c'est quoi une parabole. Les paraboles, c'est des petites histoires, apparemment sont accessibles à tous, mais elles demandent une interprétation, un discernement, pour comprendre les diverses significations qu'elles portent. Comme le dit le texte qu'on a entendu tout à l'heure, elles peuvent rester fermées à ceux qui ne possèdent pas la clé d'interprétation. Ici, dans les évangiles, la clé, c'est souvent dans les actes et les paroles de Jésus qu'on peut la trouver. Pour comprendre une parabole, il faut souvent la situer dans la prédication, dans les gestes de Jésus qui concernent le royaume de Dieu qu'il veut faire advenir. Alors, en sachant ça, d'habitude, on arrive à comprendre la parabole. Et dans le contexte qu'on étudie, juste avant le texte qu'on a lu, il y a la parabole du semeur où Jésus raconte les grains semés dans différents champs et le résultat. Et tout de suite après le texte qu'on a lu, il y a l'explication qui nous dit pourquoi, quel grain va prendre dans quelle terre, qu'est-ce qui ne marchera pas et qu'est-ce que ça peut symboliser. Qui a compris, qui n'a pas compris la prédication de Jésus. Mais dans l'extrait qu'on vient de lire, il semble avoir une énigme. Il semble nous dire que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Pourquoi ces énigmes-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un mystère? Dans l'extrait qu'on a lu, on comprend que Jésus révèle le mystère du royaume à ceux qui sont proches de lui. Mais pourquoi faut-il que son message reste énigmatique pour les autres? La réponse, ça se trouve dans l'interprétation d'une citation qui est au verset 12. On l'a lu, ça ne semblait pas être une citation parce que c'est inclus dans le texte, mais Marc reprend quelque chose qui vient du livre d'Ésaïe. Il le reprend de façon un peu libre, c'est pas mot à mot. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il reprend d'Ésaïe. C'est « pour que tout en regardant, ils ne voient pas, et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne le soient pardonnés. » Ici, Marc cite le livre d'Ésaïe, chez chapitre 6, versets 9 à 10 d'Ésaïe. Puis dans le contexte d'origine, si on va retrouver le livre d'Ésaïe et le lire dans ce contexte-là, cette citation-là annonçait l'échec du prophète Ésaïe. Son message, au lieu de ramener le peuple vers Dieu, bien, va contribuer à endurcir son péché, son cœur, puis ultimement, ça va entraîner la destruction de Jérusalem, la déportation à Babylone. Alors, le prophète Ésaïe n'a pas réussi. Et cette citation-là explique un petit peu pourquoi Ésaïe n'a pas réussi dans sa prédication. Donc, la citation d'Ésaïe est utilisée par Marc. Elle va être même radicalisée, parce qu'il va utiliser un mot qu'il va ajouter. En grec, c'est « hina », qui signifie « pour que ». Alors, les paraboles sont utilisées par Jésus pour qu'il y ait un endurcissement du cœur des gens de l'extérieur. Puis, en plus, pour ceux qui sont à l'extérieur, Jésus va souligner que tout devient énigme. Tout, c'est quand même quelque chose. Ses paroles, ses actes restent incompréhensibles pour leurs yeux. Présenté comme ça, l'enseignement de Jésus semble un peu sectaire, c'est juste pour un certain groupe, pas pour les autres, et à la limite même ésotérique. Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus veut dire, ou peut-être qu'il faut essayer de comprendre autrement ce texte-là? Je vous propose différentes façons de résoudre le mystère. Une première façon de comprendre le récit est de regarder comment d'autres textes du Nouveau Testament ont utilisé la même citation d'Isaïe. Ce que j'ai lu tout à l'heure, il y a d'autres endroits dans le Nouveau Testament où on va utiliser ça. Et on ne l'utilise pas n'importe quand. On le reprend toujours dans le même contexte. Bon, une des utilisations, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28, et on s'en sert pour expliquer le refus par Israël de la prédication des chrétiens. Même chose, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 39 à 41, On cite ce même passage d'Isaïe qui parle de l'endurcissement des cœurs pour expliquer le refus d'Israël, refus qui semble annoncé par Dieu à cause des infidélités du peuple. On peut donc en déduire que cette citation d'Isaïe était généralement utilisée par les premiers chrétiens pour expliquer l'endurcissement d'Israël qui refuse de croire que Jésus est le Messie. Vous le savez, il y a, à cette époque, après la mort-résurrection de Jésus, certains Juifs ont cru en Jésus et ils croyaient qu'il était le Messie. C'est devenu les premiers chrétiens. Mais il y en avait d'autres, qui étaient majoritaires, qui ne voulaient rien savoir de ça, qui affirmaient que Jésus n'était pas le Messie attendu du tout et qui attendaient autre chose, quelqu'un d'autre, et ce n'était pas la sorte de Messie qu'ils voulaient. Et ça a causé certains conflits entre les premiers chrétiens et ceux qui sont restés Juifs. Et cette citation-là qu'on utilise d'Isaïe dans l'Évangile de Jean, dans les Actes des Apôtres et ici aussi probablement dans l'Évangile de Marc est utilisée pour expliquer l'échec de la mission chrétienne auprès de ce peuple juif-là, dont la réaction négative semble annoncée par Jésus et les prophètes pour faire partie du dessein de Dieu. Alors, à quelque part, dans ce texte-là, il nous annonce que les gens de l'extérieur ne vont pas comprendre, ne vont pas croire. C'est une façon d'essayer d'expliquer comment ça se fait qu'ils ne vont pas le croire, qu'ils ne vont pas comprendre, mais c'est Jésus lui-même l'a dit. Alors, ces versets porteraient sur la situation qui règne au moment où les évangiles s'écrivent, plus qu'au temps de Jésus. Lorsque les évangélistes écrivent, une grande partie du peuple juif a de fait refusé d'accueillir Jésus comme le Messie. Et c'était une des grandes questions que portaient les premiers chrétiens. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça, qu'une partie des Juifs ne croit pas en Jésus? N'est-il pas le roi des Juifs? En employant cette citation d'Isaïe, l'évangéliste fait dire à Jésus que cet échec, à quelque part, c'est normal, qu'il fait même partie du plan de Dieu, en quelque sorte. Tout comme l'échec d'Isaïe du temps de la chute de Jérusalem et de l'exil à Babylone. Bon, ça, c'est une première façon d'essayer de comprendre ce récit énigmatique, mais je vais vous en proposer une deuxième. Vous verrez qu'est-ce que vous pensez qui est la plus intéressante. Une deuxième façon de résoudre cette énigme, cette parabole qu'il ne faut pas comprendre. Mais d'abord, on va écouter un peu de musique et on revient à ça. Thank you. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible en compagnie de Sébastien Daune. Nous regardons un texte énigmatique dans l'Évangile de Marc où, à la première écoute, on penserait que Jésus ne veut pas qu'on comprenne ses paraboles. Une première explication était de voir que Jésus citait un texte d'Isaïe pour expliquer pourquoi la majorité des Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. Bon, il y a aussi une deuxième façon de résoudre la question, mais avant de vous la présenter, comme c'est un court extrait, je vais vous relire ce texte-là pour qu'on l'aille vrai en mémoire. Alors, c'est Marc, chapitre 4, les versets 10 à 12. « Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu est donné. Mais pour ceux du dehors, tout devient énigme, pour que tout en regardant, ils ne voient pas, et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? » C'est Marc, chapitre 4, les versets 10 à 12. On se pose toujours la question, comment ça se fait que Jésus ne veut pas qu'on comprenne ces paraboles? La deuxième clé de compréhension que je vous suggère, c'est de se demander à qui est-ce que le maître s'adresse? À qui est-ce que Jésus parle à travers cet extrait-là? On pourrait le noter que c'est à deux groupes. D'une part, il y a les gens de l'extérieur qui ne comprennent pas. Alors, en grec, c'est exo. Ceux qui sont de l'extérieur, ils ne comprennent pas du tout. Et d'autre part, il y a ceux qui l'entourent, ceux de l'intérieur. Alors, un mot grec, c'est periauton, ceux qui l'entourent, et le groupe des 12. Ça, c'est le groupe qui est supposé de comprendre. Mais ce deuxième groupe-là, dans le texte, ça dit que le mystère du règne de Dieu est donné. Alors, ils ont reçu le mystère. Ils connaissent la clé de l'énigme. Plus précisément, on peut se poser la question, qui fait partie de ce groupe désigné par l'expression « ceux qui sont autour de lui ». C'est assez large. On peut essayer de comprendre, mais c'est assez flou. On suppose que ça pourrait être la foule qu'il suit, à qui il enseigne, peut-être d'autres disciples, le groupe des 12, des femmes, etc. Pourtant, c'est les 12 dont il est question spécifiquement dans ce texte-là, les 12 apôtres. Si on suit le texte, il dit qu'ils ont reçu les clés de la compréhension des paraboles. Mais pourtant, quand on lit la suite de l'Évangile de Marc, on voit à plein d'endroits qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont dans une incompréhension. Puis ça, c'est tout au long de l'Évangile. Marc va même utiliser la même citation d'Isaïe, avec le qu'on vient de lire là, tout à l'heure, qu'ils ne comprennent pas, que leur cœur est fermé, etc., pour qualifier les 12 de ceux du dehors. Ça, c'est Marc, chapitre 8, versets 14 à 18, en disant, Jésus va reprocher aux disciples de ne rien comprendre et d'avoir le cœur endurci. Je vous lis ça très rapidement. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation, et là je cite, « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et celui d'Hérode. » Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. » Marc, chapitre 8. Alors donc, on peut voir que les 12, qui pourtant sont supposés d'avoir la clé de compréhension, sont traités de la même façon que ceux du dehors. On leur dit qu'ils ont des oreilles qui n'entendent pas, qu'ils ont des yeux qui ne voient pas. Et même si on va plus loin dans l'Évangile, on peut souligner que c'est l'un des membres des 12, là, Judas, qui va finir par trahir Jésus. Donc finalement, les 12, même à l'Évangile, dans l'Évangile de Marc, à la fin, là, lors de la Passion, il ne reste plus personne. Tous les 12 s'enfuient. Ils vont abandonner Jésus lorsqu'il est arrêté. Jésus est seul dans l'Évangile de Marc lorsqu'il est crucifié. Donc, si on revient à notre récit, on peut se demander qui est vraiment de l'intérieur et qui est vraiment de l'extérieur dans la perspective de Jésus. Ses proches ont-ils réellement compris le mystère qu'il veut leur dévoiler? Bien, la suite de l'Évangile nous montre que peut-être que non, parce que les disciples ne semblent pas avoir compris, au contraire. Au moment de de l'arrestation, ils sont au même point que ceux du dehors, et pour qui tout devient énigme. Ils ne comprennent plus comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Puis pourtant, Jésus leur avait révélé le mystère du royaume de Dieu par ses paroles, par ses actions. Donc, si dans une première lecture, on pouvait entendre que Jésus ne veut pas que les autres comprennent, il faut maintenant envisager l'hypothèse que ce passage-là peut aussi expliquer l'échec des disciples à comprendre le message de Jésus. Parce qu'avant la résurrection, surtout au moment de la mort de Jésus, tous les disciples sont partis, ils avaient peur, ils ne voulaient pas se faire crucifier eux-mêmes. Et en tout cas, on voit qu'il y a un échec à quelque part. Les disciples n'ont pas compris. Alors, peut-être que ce passage-là essaie d'expliquer ça. Tout comme tout à l'heure, on essayait de voir comment ce passage-là pouvait aussi expliquer l'échec des premiers chrétiens à annoncer l'Évangile aux Juifs. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris? Alors, dans ce récit, ces échecs semblent faire partie du plan mystérieux de Dieu. On peut se demander comment ça se fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? On ne le sait pas. Et comme Dieu n'est pas là pour s'expliquer, bon, on va devoir rester dans notre mystère. Pour terminer notre réflexion, je vous propose de réfléchir sur nous dans tout ça. En tant que lecteur, lectrice de l'Évangile, bon, on fait partie, nous aussi, du groupe des proches de Jésus. Dès les premiers versets de l'Évangile, si on lit l'Évangile de Marc à partir du début, le narrateur nous place dans une position de celui qui possède la clé de la compréhension. Il nous la donne dès le début. L'Évangile de Marc, ça commence avec les mots « commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Dès le départ, on sait que Jésus est Christ, Messie, et qu'il est Fils de Dieu. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette révélation-là? Est-ce qu'on va l'ignorer, l'oublier, ou nous engager avec Jésus pour l'avènement du royaume de Dieu? Le récit insolite de la parabole à ne pas comprendre, ça parle de l'importance de nous mettre à la suite de Jésus, d'ouvrir nos oreilles et notre cœur pour essayer de saisir son message. Et même si on ne comprend pas tout de suite, on a vu que malgré leur position privilégiée, les disciples non plus n'ont pas tout compris tout de suite. Et je trouve ça rassurant, quelque part, de savoir que les questions, les doutes, bien, c'est normal dans une vie de foi. Et peut-être que l'important, c'est de rester justement dans ce questionnement-là et de se questionner pour avancer dans le mystère vers une meilleure compréhension de tout ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette fin d'émission. J'espère que vous appréciez cette série. Et pour aller plus loin, j'ose vous suggérer un livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn » que je viens de publier chez Novalis et Mediapol. À la suite de l'écoute de notre émission ou de la lecture de ce livre, si vous avez fait des découvertes, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a touché, ou si vous avez des questions, des commentaires, d'éclaircissements, contactez-nous. Et le courriel qu'on vous suggère, c'est auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on regarde un récit que j'affectionne particulièrement parce qu'il est un petit peu... Il est assez spécial. C'est un exorcisme très particulier où Jésus va sortir pas juste un démon, mais toute une légion. Et ces démons-là vont finir dans un troupeau de 2000 porcs qui va se suicider en se lançant dans la mer. Je vous garantis que c'est encore meilleur que le fameux film The Exorcist. Alors, c'est à ne pas manquer. Comme à l'habitude, merci à Marie Laferrière pour sa lecture et merci aussi à Alain Primo, notre fidèle technicien. Mais surtout, merci à chacun, chacune d'entre vous qui prenez le temps d'écouter de façon attentive et acceptez de plonger avec moi dans des pages moins connues et peut-être un peu plus bizarres de la Bible. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.